Alors bonjour chers auditeurs, merci d'écouter notre capsule d'aujourd'hui, notre capsule du podcast du CSH. Aujourd'hui notre thème, un événement marquant qui a marqué l'histoire contemporaine en 39-45, la Deuxième Guerre mondiale qui a laissé des cicatrices à travers toute l'Europe et l'Occident. Cette guerre a été débutée notamment par l'Allemagne nazie qui a été l'acteur politique dominant durant cette guerre. Cette structure politique a été définie par le nazisme qui sera notre sujet abordé aujourd'hui. Alors avec moi aujourd'hui mon équipe, Blanche Caron, étudiante en sciences humaines, profil individu, et M. William Couture, étudiant en sciences humaines, profil administration. Bonjour et bienvenue d'être avec moi.
Bonjour.
Je serai Édouard Pilon, étudiant en sciences humaines administration. Je serai votre animateur aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, mesdames, messieurs, peut-être une courte chronique sur des sujets en lien avec le nazisme. D'abord avec Blanche, peux-tu nous décrire un petit peu en quoi consiste ton sujet?
Eh bien, je vais vous parler de l'institution familiale du nazisme. Premièrement, il y a le rôle selon les sexes. Le rôle de l'homme comparé à au rôle de la femme était vraiment différent. Par exemple, la femme, c'était vraiment important qu'elle soit belle. Elle devait être une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants. Tandis que l'homme devait subvenir aux besoins de la famille et être fort et lui aussi beau. Ensuite, c'était vraiment important pour le nazisme de conserver la race supérieure. Donc, c'est pour ça que le mariage était fait pour avoir des enfants. Le mariage n'était pas important pour l'amour, mais bien pour avoir des enfants lorsque le couple avait les yeux bleus et les cheveux blonds, puisque selon le nazisme, c'est les critères de beauté. La conséquence avec tout ça, c'est que selon le nazisme, on accepte la polygamie, donc les enfants hors mariage, dans les cas où une personne avec les cheveux blonds et les yeux bleus n'a pas de personne avec qui avoir d'enfants, tandis qu'une autre personne est mariée mais peu à ses critères. Ça fait en sorte que les familles étaient vraiment peu stables dans ce régime.
Ça nous décrit un peu comment étaient les familles conformes au modèle nazi, mais il devait y avoir des familles qui étaient non conformes. Puis si oui, comment est-ce que les nazis les traitaient?
Oui, bien sûr, il y avait les familles juives, premièrement, qui étaient les familles les plus maltraitées par les nazis. Donc, les personnes étaient victimes d'intimidation, de violence, de maltraitance, des camps de concentration où ils devaient travailler contre leur gré et être maltraités, peu nourris. Et ensuite, il y avait la mort parce que leur but était d'éliminer cette race, les familles juives. Aussi, toutes les personnes en lien avec des juifs pouvaient avoir des conséquences comme ça. Donc, si quelqu'un était ami avec un juif, était un loin parenté de juif, aider les juifs, ils pouvaient subir les mêmes conséquences. Ensuite de ça, les personnes handicapées mentalement ou physiquement pouvaient aussi être maltraitées. Il y avait des hôpitaux psychiatriques où les gens étaient vraiment maltraités, ils étaient dans des chambres, ils étaient coincés, ils n'avaient pas de liberté du tout. Aussi, ils pouvaient être envoyés dans les camps où ils vivaient beaucoup de violence et où ils pouvaient être tués. Aussi, les mauvais antécédents familiaux pouvaient faire en sorte de vivre des conséquences, comme par exemple dans un livre où on présente des familles non conformes nommées « Ils ont vécu sous le nazisme ». On nous parle d'un jeune garçon que son père était alcoolique. Donc ce jeune garçon était pris dans un hôpital psychiatrique, même s'il n'avait aucun problème. Et il devait travailler là-bas, et il devait faire plusieurs travaux et il était enfermé dans une chambre. Et tout ça, c'était seulement parce que ces types de familles ne permettaient pas la race supérieure et parce qu'ils avaient certains antécédents ou certains critères qui faisaient en sorte qu'ils ne ressemblaient pas à la race aryenne, donc blond, aux yeux bleus. Et ils ne pouvaient pas permettre à ces critères de beauté et la force de continuer selon le nazisme.
Fait qu'on recherche vraiment la pérennité de l'espèce aryenne un peu, puis on exclut vraiment tous ceux qui sont à l'extérieur de ce cadre-là. C'est quand même assez intéressant. Pour ta part, William, tu nous décris un petit peu la situation économique de l'Allemagne. Je t'en prie, poursuis avec ton sujet.
OK, moi, aujourd'hui, j'ai parlé du nazisme vraiment plus du point de vue économique. Pour commencer, il faut se mettre dans le contexte. C'était l'Allemagne qui est sortie très amochée de la Première Guerre mondiale. Il y a le traité de Versailles. Le traité de Versailles, il leur impose une immense dette que, bien sûr, le pays peut pas rembourser. C'est alors qu'en 1923, le pays a refusé de payer la dette. Justement, il était pas capable de la payer. Fait que l'Allemagne était vraiment en misère. C'est alors que la France a vraiment profité de la faiblesse de l'Allemagne pour prendre possession du Ruhr. Le Ruhr, c'est vraiment la plus importante région industrielle en Allemagne. Donc, l'Allemagne a commencé encore à moins bien aller. Ceci a vraiment amené l'effondrement de la monnaie allemande, qui a mené aux ruines des épargnes aussi. Les étrangers, comme les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, ont tous enlevé leurs capitaux, qui provoque la faillite de plusieurs banques allemandes. Un peu plus tard, ensuite, pour les aider, que la France, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, ils ont décidé d'alléger la dette et imposer aux Allemands, et les banques américaines en plaçant d'énormes sommes en Allemagne. Ça commençait à donner un peu de répit à l'Allemagne, mais c'est rare qu'en 1929, il y a eu droit au crash boursier qui déclenche la plus grande crise économique du 20e siècle, appelée la Grande Dépression. C'est alors que, comme tous les autres pays, l'Allemagne a chuté économiquement. Il y a les États-Unis qui ont retiré encore une fois tous ses capitaux en Allemagne. Donc, ils se retrouvent encore une fois dans le pétrin. Les exportations sont aussi en constante diminution en raison d'une forte décroissance mondiale du commerce. Donc, en raison de cette déflation, le taux de chômage en Allemagne continue d'augmenter. Les chômeurs passent de 600 000 en 1928 à 6 millions en 1932, soit 33% de la population active, ce qui est énorme. De plus, en raison d'une consommation beaucoup moins élevée, il y a de nombreuses petites entreprises qui font faillite, dont beaucoup de personnes qui se retrouvent sans logement, sans travail. C'est alors que l'Allemagne vit sa période la plus creuse dans ces années-là. C'est à ce moment-là que Hitler et le parti naziste en profitent pour monter au pouvoir.
Fait qu'il y a tout un contexte économique qui explique la montée au pouvoir d'Hitler, mais comment est-ce qu'il se l'est approprié, ce pouvoir-là?
Mais premièrement, il faut comprendre qu'à cette époque-là, la population est vraiment désespérée. Puis maintenant, ils sont vraiment prêts à changement. C'est alors qu'avec la pluie, Hitler a réussi à un peu convaincre la petite bourgeoisie puis la classe moyenne à embarquer derrière lui, parce que ces personnes-là, c'était les plus touchées de la crise économique. C'est alors qu'en 1933, le 30 janvier spécifiquement, Hitler monte au pouvoir. Il y a vraiment un but de remonter l'économie du pays. Premièrement, en réorganisant l'agriculture, en réglant les cas de chômage qui étaient énormément élevés, mais aussi en fournissant du travail productif. Selon lui, ces problèmes sont vraiment les conséquences du traité de Versailles. Et selon lui, ni le communisme ni le grand capital ne peuvent sauver l'Allemagne. C'est donc pourquoi il met en place très rapidement une dictature sous un régime entièrement totalitaire, où que le parti naziste est le seul reconnu sous une direction d'un seul chef, soit Hitler. Il détient alors le contrôle total sur l'économie et ne tente pas à mettre rapidement en œuvre ses solutions.
Fait qu'il profite vraiment un peu de la pagaille économique qu'il y a puis de la précarité politique pour instaurer un pouvoir qui, en d'autres temps, n'aurait pas eu lieu. Quelles actions lui ont permis à Hitler et à son nouveau parti nazi à relancer l'économie? Quelle méthode il a utilisé?
Ben, premièrement, il a commencé par interdire les sorties des capitaux étrangers investis dans le pays, à moins de vouloir les utiliser pour acheter des marchandises produits au pays destinés aux exportations. Ensuite, le pays commence à produire dans leur propre pays des produits de substitution pour réduire le nombre d'importations, justement. Par exemple, il commence à remplacer le pétrole par l'essence cinétique ou les matières naturelles par la production de caoutchouc ou tissu cinétique. Ça permet ainsi de vivre à temps plein, un peu comme un temps de guerre, soit qu'on n'a pas on n'a pas d'aide extérieure. Et ensuite, du côté financier et banquier, ils ont créé une certaine monnaie parallèle pour le travail. On appelle ça les traites de travail, utilisées par l'État. L'État utilisait cet argent-là, cette monnaie-là, pour payer ses contractants et leurs fournisseurs. Leurs entreprises sont donc autorisées à emprunter à court terme aux banques certifiées par l'État, pratiquement tous privés. Tout ça dans le but de venir en aide au financement, qui est la problématique du système économique du pays. Par contre, c'est sûr que ces actions ont eu des grandes conséquences. Cela a fait augmenter la dette, mais les nazis restent très positifs et pensent pouvoir la rembourser dans le futur. Comme j'ai parlé, ils ont aussi réorganisé l'agriculture. Le secteur agricole est une des plus grandes problématiques en Allemagne. Il doit importer un tiers de ses denrées alimentaires, donc est énorme. Et en plus, le pays tente de vivre en autarcie, fait qu'il veut pouvoir vivre sans l'aide des autres pays, mais il exporte un tiers, fait qu'on s'entend que ça peut pas marcher. Alors, les nazis se doivent de réorganiser de A à Z l'agriculture. Ils commencent en fixant les prix au-dessus des prix mondiaux pour encourager la production. Ensuite, dû à la construction d'autoroutes qui prit les Allemands de milliers d'hectares de terres fertiles, les pays se doivent de regrouper les agriculteurs dans les secteurs délimités appelés une paysine de cercle. C'est comme ils ont tout regroupé un peu, ils ont délimité un secteur pour vraiment faire l'agriculture. Ensuite, pour contrôler le nombre constant d'agriculteurs, l'État met en place une certaine condition concernant l'emploi des paysans à la campagne en ville. Par exemple, il interdit en ville d'embaucher un travailleur ayant servi dans l'agriculture les 3 années précédentes. Aussi, les jeunes femmes sous les 25 ans se doivent obligatoirement 1 an de service bénévole au secteur fermier. Ces règlements sont très stricts mais nécessaires pour assurer la production minimale par le pays.
C'est très intéressant cette restructuration-là économique. Pour mon article, on va un peu garder le même thème. Hitler va considérer qu'il est absolument pertinent de restructurer l'Allemagne au niveau politique pour s'assurer qu'on repasse sur des bases plus stables, parce qu'il considère que l'ancien régime qui était plus démocratique fonctionne pas, puis c'est pas ce régime-là qui va les amener à s'instaurer sur la scène internationale. Alors souvent, on pense à tort un peu comme on décrit souvent le plan économique d'Hitler comme un peu simpliste. C'est la même chose pour sa structure économique. On va à tort le critiquer puis dire que c'est un modèle barbare puis extrêmement régressiste. En fait, le modèle qu'il va établir est particulièrement intéressant. En accédant au poste de chancelier, il va vraiment transformer l'Allemagne. Mais il va falloir définir quelques concepts avant de rentrer un peu plus dans les détails. D'abord, dès son ascension au pouvoir, Adolf Hitler... qui accède au poste de chancelier du Reich, s'annonce, lui et son parti, comme étant un parti national-socialiste qui va appeler, en traduction, le Parti socialiste des travailleurs allemands, ou le NSDAP. Cette appellation-là, ça exprime un désir assez important de placer l'identité nationale et le patriotisme au centre d'un régime qui serait basé sur ces valeurs-là. Puis, c'est un régime dont l'idéal premier, c'est la répartition stricte et équitable des ressources par un gouvernement au pouvoir extrêmement centralisé, puis aux fonctions de régulateur, puis on parle de régulateur autant au niveau économique que politique. Il va vendre son parti comme voulant remettre la classe de travailleurs de l'avant, remettre la petite bourgeoisie sur un pied d'égalité avec les grands propriétaires terriens et manufacturiers de l'époque. Donc avec ces discours-là électoraux et puis ses promesses de socialisme contrôlé, il va vraiment charmer la population, un peu comme William, tu disais. Et puis, ça va lui permettre d'anéantir complètement le système social en place, notamment en prônant qu'il va détruire les classes sociales puis mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mais ça va juste lui permettre un peu de resserrer l'estreinte de l'État sur la population. Avec tout ça, écoutez, la population va jeter sa volonté individuelle puis ses libertés au pied de l'État, sous la promesse de jours meilleurs, un peu d'une utopie qui, au fond, verra jamais le jour. Dans les faits, on voit clairement que le régime d'Hitler, c'est un régime totalitaire. Pourquoi totalitaire plus que autoritaire? C'est une question qui a été débattue très longtemps par rapport à l'Allemagne nazie. Dans un premier temps, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Un régime autoritaire, c'est un régime qui détruit toute l'opposition politique du pays, puis qui instaure un contrat politique puis un contrat économique qui est nouveau, puis qui annihile toutes les structures qu'il y avait avant. Dans le cas d'Hitler, on va plus loin dans la restructuration du pays. On va tomber dans le totalitarisme. La différence, c'est qu'on détruit les structures sociales en place, on impose un système de valeurs à la population, ce qui leur empêche de construire pour eux-mêmes une échelle de valeurs, et puis tout ce qui en découle. Dans le fond, l'État régit non seulement la vie publique, mais la vie privée. Le fascisme hitlérien il s'exprime de plusieurs façons. En fait, dès sa montée au pouvoir, on voit que c'est un régime fasciste, du fait qu'il va utiliser la menace, les pots de vin, puis même avoir recours à l'assassinat pour arriver à ses fins. Puis le levier de sa politique, c'est la propagande et la désinformation. Puis ça, c'est des façons insidieuses qui sont caractéristiques des régimes nazis. Une fois au pouvoir, il va offrir des postes prestigieux à différents membres qui étaient déjà au conseil pour s'assurer que son gouvernement interne est fort et le suit. C'est ce qui va lui permettre d'imposer autant de mesures, autant draconiennes au sein du pays. Il va présenter aussi à la population puis aux membres de son gouvernement un ennemi capitaliste imaginaire qui va terroriser la population. En fait, il va présenter un ennemi qui n'existe pas. Donc, les Nord-Américains, le reste de l'Occident, comme l'Europe, la France, l'Angleterre, tout ça, qui, entre autres, avec le traité de Versailles, ça va être son levier pour pousser la population à se révolter contre ce système-là, puis à lui accorder encore plus de confiance. Son fascisme va s'imposer en deux temps. D'abord, le 29 mars 1932, quand il va abolir toutes les libertés fondamentales qui restaient aux individus. Ça va se faire par le Conseil législatif d'Hitler. Puis ça va un peu insidieusement diluer les syndicats puis toutes les structures sociales formelles. Puis du même coup, il va en profiter pour mettre la presse nationale au service du NSDAP, donc son parti. Et puis, en un second temps, il va imposer la loi contre la formation de nouveaux partis le 14 juillet de la même année, qui proclame le NSDAP comme parti unique. De cette façon, tout tourne désormais autour de Hitler. Les infrastructures politiques se divisent en deux temps. D'abord, il y a la structure officielle qu'Hitler va imposer dans toute l'Allemagne. Il y a le quadrillage politique, c'est comme ça que sa structure s'appelle. Dans le fond, c'est qu'on va diviser la structure électorale en circonscriptions, ce qui va devenir des nouvelles régions administratives. Ces régions-là sont faites pour défaire les divisions ethniques qui étaient faites avant dans les circonscriptions, puis les divisions aussi des programmes sociaux et autres localités. Ça va permettre entre autres un meilleur recensement démographique, puis justement ça va empêcher une certaine cohésion sociale, donc ça empêche le soulèvement. Il va aussi diviser ces zones administratives-là en districts afin d'accentuer son contrôle, puis il va diviser les districts encore armés. Ça, c'est comme des petits régiments, des milices locales qui rentrent dans ces districts-là, puis ils sont directement référés à Hitler, fait que ça permet vraiment de contrôler tout par un système de délation puis de brutalité. Ensuite, on voit qu'il y a la pyramide hitlérienne qui s'instaure tranquillement dans les mesures sociales. C'est basé sur la théorie du darwinisme social. Dans le fond, c'est que tous les postes de l'État sont d'une précarité accablante, c'est-à-dire que aucun poste est acquis. Tu vas toujours devoir te battre pour ta position, tu vas devoir la défendre, puis pour te rendre à un certain poste, à un certain prestige, tu vas devoir détrôner celui qui est déjà en place. Fait que ça crée que tout le monde doit absolument prouver sa valeur à Hitler, puis ça crée un gouvernement qui est extrêmement attaché au pouvoir de son chef. Puis, comme la délégation administrative est très importante, donc chaque fonctionnaire n'a pas beaucoup de tâches, ça accentue encore plus cette précarité des postes-là. Donc, la dépendance à Hitler. Il y a aussi une structure officieuse dans l'Allemagne nazie. La première contrôle les prolétaires, c'est un DAF, c'est un front ouvrier qui a été instauré par Hitler. Ça se veut divisé de l'État, mais en fait, tous les représentants se réfèrent directement à Hitler. Donc, les prolétaires sont contrôlés de l'interne par des agents. Le contrôle des agriculteurs se fait un peu comme William l'avait dit. Puis aussi, on infiltre des agents dans des organisations de la défense des droits des agriculteurs qui étaient déjà en place, puis on fait en sorte que dès qu'il y a un soulèvement qui se fait ou quoi que ce soit de genre, ces agents-là se réfèrent directement à Hitler, puis on envoie la SS un peu débarbouiller ou régler les problèmes sur le terrain. Ensuite, il va y avoir le contrôle du patronat, qui est un milieu pas très à risque pour Hitler, puisque la guerre est extrêmement prolifique pour les propriétaires d'usines, mais il va quand même essayer de garder un contrôle sur eux, notamment en détruisant le RDI, qui était le syndicat des grandes industries allemandes. En faisant ça, il va éliminer toute la présence juive dans ce milieu-là. Alors ça, c'est un peu ce qui conclut nos reportages. Si on peut peut-être poursuivre avec des entrevues qu'on a tous faites avec des experts de différents milieux. D'abord, peut-être avec Blanche, tu as rencontré un expert particulièrement intéressant. De quoi vous avez parlé? Puis tu peux nous le présenter un peu.
Oui, j'ai rencontré Jean-Guy Prévost, un enseignant de sciences politiques à l'UQAM. Monsieur Prévost enseigne le cours sur les régimes totalitaires, donc il était vraiment en mesure de répondre à mes questions. Dans un premier temps, j'ai demandé, selon lui, qu'est-ce qui aurait poussé un si grand nombre de personnes à joindre le mouvement nazi dans les années 1920?
Ben, d'abord, on doit dire qu'au début, il n'y a pas eu tant de personnes que ça qui ont rejoint le mouvement nazi. C'est resté un mouvement un peu aux marges du système politique. C'est un mouvement qui avait un certain succès, mais limité. L'appui au mouvement nazi a véritablement explosé à la faveur de la grande crise économique. Alors, au moment de la crise économique de 1929 aux États-Unis, il y a eu un contre-coup très fort en Allemagne parce que l'Allemagne, qui avait des dettes de guerre importantes, dépendait beaucoup de l'aide américaine. Et là, l'aide américaine ne pouvait plus arriver. Il y a eu énormément de chômage de façon très brusque. Et le parti nazi, qui depuis une dizaine d'années faisait campagne contre le traité de Versailles, qui imposait justement des réparations monétaires aux autres pays, ce parti-là a véritablement connu une audience très forte et a commencé à recruter massivement. Et il a obtenu des succès importants dans les élections au début des années 30. Il a obtenu jusqu'à 37% d'appui dans l'électorat. Donc, ça, c'est le maximum qu'il a obtenu en 1932. Donc, c'est un appui considérable. C'était le parti qui avait le plus d'appui à ce moment-là. Ça n'a pas été un appui de plus de 50%, là. Ça reste un appui à 37%.
Ensuite de cela, je vais demander pourquoi le président de la République allemande, donc le maréchal Paul von Hindenburg, aurait décidé contre son gré de nommer Hitler à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933.
Bon, donc il y a eu ces élections en 1932 où le parti nazi avait obtenu beaucoup de voix. Il a été impossible de constituer un gouvernement, comme on dit, qui avait la confiance de la Chambre. C'est-à-dire qu'il était impossible que les partis s'entendent sur un gouvernement qui obtiendrait l'appui de plus de la moitié des députés en Chambre. Parce que les partis forts en Chambre, il y avait le parti nazi, il y avait le parti communiste, il y avait le parti social-démocrate, c'est les trois grandes forces, ils s'entendaient pas ni l'un ni l'autre. Donc, c'était difficile de trouver une coalition qui puisse soutenir un gouvernement. Il y a eu d'autres élections en novembre 1932. L'appui au parti nazi a baissé un peu, mais ça n'a pas résolu le problème. Il est encore très difficile de trouver une coalition qui fonctionne, parce qu'on excluait d'emblée que cette coalition-là soit dirigée par Adolf Hitler. Et il y a eu toute une série de transactions tout au long du mois de janvier 1933. Il y a un très beau livre d'un historien américain qui s'appelle Turner, qui s'appelle, on pourrait traduire par 30 jours en janvier, quelque chose comme ça, janvier 1933, 30 Days to Power, je pense, le titre original, qui raconte toutes les tractations entre partis, entre le président du pays, qui a pour tâche de nommer le chancelier, qui est le chef du gouvernement, et ces partis-là. Et finalement, on a réussi à constituer une coalition dominée par le parti nazi, mais avec plusieurs petits partis nationalistes, partis de droite, et ensemble, ils pouvaient obtenir la confiance de la Chambre. Et ça apparaissait à plusieurs comme la seule solution à cette crise gouvernementale. Probablement que la plupart des gens qui ont donné leur consentement parmi ces chefs de petits partis pensaient que ce serait une solution temporaire et qu'éventuellement on remplacerait Hitler par un politicien plus traditionnel. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées.
Puis, je vais demander en quoi consistaient les lois de Nuremberg qui ont été mises en place le 15 septembre 1935 par le parti nazi.
Bon, les lois de Nuremberg sont essentiellement des lois raciales. C'est des lois qui visaient à codifier les rapports entre ceux qu'on désignait comme les Aryens ou les Allemands purs et ceux qui ne l'étaient pas, essentiellement des Juifs. Donc, pour faire cela, par exemple, on interdisait les mariages, les relations sexuelles, et ainsi de suite, mais pour faire cela, il fallait définir qui était juif et qui n'était pas. Et là, ce n'était pas un problème simple, parce qu'il pouvait y avoir des gens qui avaient un parent juif, un parent non juif, un grand-parent juif, trois grands-parents non juifs, trois grands-parents juifs, un grand-parent non juif. Donc, tous ces cas de métissage, et les lois de Nuremberg fournissaient, si on veut, des critères pour départager ça. Donc, c'est la mise en place de la politique raciale qui va éventuellement déboucher sur le génocide des Juifs. Pour exterminer les Juifs, il faut d'abord définir qui est juif, et c'est ça que les lois de Nuremberg faisaient. Je dis pas que les lois de Nuremberg, on les a faites en vue d'exterminer les Juifs, mais la façon dont on les a faites, c'est une des choses qui a permis l'extermination.
Donc, c'est cela qui a conclu mon entrevue avec Jean-Guy Prévost, enseignant à l'UQAM.
Alors, merci beaucoup, Blanche. Maintenant, William, toi aussi, tu as rencontré un expert assez renommé dans son milieu.
Oui, pour moi, j'ai rencontré Nicolas Fournier. Je peux aller très loin, je l'ai rencontré ici au Cégep. Nicolas, c'est un jeune historien qui enseigne l'histoire au Cégep de Saint-Jérôme, justement. C'est vraiment un expert dans le sujet parce qu'il a fait sa maîtrise sur le sujet nazi. Mais moi, je voulais faire une entrevue sur le nazisme, mais vraiment plus sur l'antisémitisme. Blanche en a parlé un peu. C'est l'antisémitisme, c'est un peu comment que les Juifs étaient vus dans le temps d'Hitler. Fait que j'ai commencé par me poser la question, qu'est-ce qu'est l'antisémitisme? Donc, quelles sont ses origines? Et voici sa réponse.
L'antisémitisme, dans le fond, c'est du racisme à l'égard des Juifs. C'est une xénophobie, c'est également une tentative de les marginaliser, de les exclure, de les discriminer. Puis les origines de l'antisémitisme sont quand même très très lointaines. Donc il ne faut pas penser que c'est Hitler, quand il arrive au pouvoir en 1933, qui invente cet élément-là. Ça fait longtemps que ça existe comme concept. Déjà dans le début du Moyen-Âge, dans les sociétés occidentales, il y a un antisémitisme qui est présent. Donc au Moyen-Âge, assez régulièrement, il va y avoir là, des mesures qui vont être entreprises contre les Juifs. On va les enfermer dans certains quartiers. On va les taxer davantage que des chrétiens. De temps à autre, il va y avoir ce qu'on appelle des pogroms. Donc, c'est un peu du pillage de maisons, de boutiques juifs. Aussi, Juifs qui vont être battus. Dans certains cas, on va aussi en exécuter. Donc, c'est absolument pas récent comme phénomène. C'est pas non plus unique à l'Allemagne. Donc, déjà à l'époque de Hitler, on constate un antisémitisme en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada également. Donc, ce qui se passe en Allemagne dans les années 1900, 1910, 1920, ça se voit un peu partout à l'intérieur de l'Occident.
J'ai aussi demandé, à la suite de ses réponses, c'est à quand remonte vraiment la haine d'Hitler face aux Juifs?
C'est une bonne question sur laquelle les historiens ne s'entendent pas réellement quant à la réponse. Lorsque Hitler va commencer à prendre les rênes du parti nazi dans les années 1919-1920, il est déjà extrêmement antisémite. Donc, les premiers programmes, si on veut, du parti nazi sont plutôt virulents à l'égard des Juifs. Donc, au sortir de la Première Guerre mondiale, Hitler est déjà plutôt raciste. La question, par contre, à savoir quand est-ce que ça a commencé, c'est plutôt nébuleux. Probablement que dans la cellule familiale de Hitler, il n'y a pas nécessairement un antisémitisme très flagrant. Même chose également durant la Première Guerre mondiale. Donc, les hypothèses qui sont retenues, c'est soit au sortir de la guerre, il y a une espèce de haine généralisée contre la société allemande, contre la nouvelle République de Weimar. Également, il y a une espèce de légende qui s'appelle la légende du coup de poignard dans le dos, sur lequel les nationalistes allemands vont jeter le blâme de la défaite sur les Juifs, sur les communistes également. Il y a aussi peut-être, un petit peu avant ça, Hitler a vécu pendant certaines années, à Vienne. Et déjà dans les années 1906, 1907, 1908, il y a un antisémitisme qui commence à devenir de plus en plus flagrant en Autriche.
Puis à la suite de ses réponses, Nicolas a vraiment confirmé que Hitler, il considérait une race supérieure, c'était les Aryens. Donc j'ai demandé pourquoi Hitler considérait cette race-là comme supérieure.
C'est une bonne question. Il ne faut pas penser que c'est uniquement Hitler qui amène ça. Il y a également beaucoup de pseudo-intellectuels qui vont amener de l'eau au moulin en ce sens-là dans le parti nazi. Donc, c'est un courant là, qui est beaucoup plus généralisé qu'uniquement la pensée de Hitler. Dans le fond, il faut probablement se référer au darwinisme. À partir du 19e siècle, il y a Charles Darwin qui va développer l'idée de l'évolution des espèces, comme quoi il y a des espèces qui sont plus fortes que d'autres. Ensuite de ça, il y a des gens racistes qui vont reprendre l'idée de Darwin et qui vont aller beaucoup plus loin que Darwin en disant que à l'intérieur même de l'être humain, il y a des races, entre guillemets, il y a des races fortes, il y a des races faibles et il devrait y avoir, comme chez les animaux, une espèce de hiérarchie. C'est-à-dire, on a des races très très fortes qui devraient être des lions, donc qui sont des prédateurs, et au contraire, on a des races faibles qui doivent servir un peu, si on veut, de proie aux races un peu plus fortes. Donc, déjà, on voit apparaître ça là, à la fin du 19e siècle. Pas encore une fois, pas uniquement en Allemagne. Et du point de vue, bon, allemand, il y a l'idée qu'il y a une espèce de race germanique que les Allemands vont appeler la race aryenne, qui est supérieure, qui doit dominer les autres. On va trouver également des races qui sont apparentées à la race aryenne. Par exemple, les Scandinaves, notamment les Norvégiens, les Suédois, selon cette doctrine-là, ne seraient pas très éloignés de la race aryenne. D'ailleurs, ça explique en petite partie pourquoi, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Norvégiens vont être relativement bien traités par les Allemands, beaucoup plus que, par exemple, les Polonais, ou les Tchèques, ou les Russes, ou les Ukrainiens, qui, eux, au contraire, sont des Slaves, donc sont considérés comme faisant partie des échelons inférieurs à la hiérarchie sociale et raciale. Et finalement, ben, on bat complètement de l'échelle, on a les Juifs.
C'est ce qui conclut mon entrevue avec Nicolas. J'ai bien aimé Nicolas parce qu'il était vraiment un expert dans le sujet à cause de sa maîtrise. Fait que mon entrevue était vraiment pertinente pour le sujet nazisme.
Alors, merci beaucoup William et merci à Nicolas, ton expert, d'avoir participé à notre podcast. Pour ma part, j'ai rencontré M. Guillaume Marceau, qui est un professeur d'histoire à l'Université de Québec à Ottawa. Il se spécialise en propagande et en propagande démocratique en temps de guerre. Donc, dans mon cas, c'était pour la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai rencontré à l'UQAM, dans son pavillon, dans son bureau. Il a répondu avec beaucoup de clarté à mes questions. Dans un premier temps, c'est sûr, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était la propagande, puis s'il pouvait me définir, c'était quoi la différence entre la propagande et la propagande démocratique. Alors, sa réponse très intéressante, là aussi.
Ben en fait, il n'y a pas de consensus sur la définition de la propagande. C'est assez intéressant cet aspect-là en tant que tel. C'est un des sujets que j'aborde et que j'essaie d'analyser dans mon doctorat. Beaucoup, beaucoup d'auteurs défendent différents types de définitions sur qu'est-ce que c'est la propagande. Pour faire quelque chose de le plus simple possible, et ce que je trouve qui est le plus intéressant comme définition, c'est propager une idée sans possibilité de pouvoir la discuter face à un récepteur. En d'autres mots, c'est-à-dire que si je peux donner un exemple concret d'aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation pour se brosser les dents, il n'y a personne aujourd'hui qui dirait qu'il ne faut pas se brosser les dents. C'est une campagne de propagande. La publicité, c'est de la propagande. Le problème, c'est que quand on fait de la propagande, c'est qu'on veut nécessairement imposer un point de vue sans possibilité de le discuter concrètement ou, s'il y a discussion, il faut amener le récepteur à adopter ce point de vue-là d'une manière ou d'une autre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a des régimes qui sont dits totalitaires ou à vocation totalitaire, qui, eux, vont justement employer toutes sortes de stratagèmes pour justement éviter ce problème-là et utiliser beaucoup de propagande pour plus qu'on discute le message employé. Alors que des démocraties, elles, vont vouloir comme respecter encore l'intelligence du public, permettre une certaine forme de discussion politique, mais il y a quand même des enjeux de propagande qui sont non discutables. Les libertés, la démocratie, le respect des droits, etc., etc.
Ensuite, avec les éclaircissements qu'il m'a donné par rapport à ce qu'était la propagande, c'était évident qu'on n'utilisait pas de propagande démocratique en Allemagne nazie. Je lui ai demandé, si c'est pas de la propagande démocratique, c'est quel type de propagande qu'utilisait l'Allemagne nazie?
Tous les types de propagande, en fait. L'Allemagne nazie est un régime basé sur l'idée de propagande. Pour ceux qui ne le savent pas, Hitler, son premier travail dans le parti nazi, était chef de la propagande. Dans Mein Kampf, qui a écrit 1924-1925, traite de propagande pendant un très long moment à l'intérieur du livre. Donc, pour lui, c'est essentiel. Il y a des manières de l'expliquer. Il y a des manières de l'utiliser. Et l'Allemagne nazie va devenir très moderne, entre guillemets, dans son utilisation de la propagande. Cinéma, radio, tous les moyens technologiques les plus avancés de la période vont être utilisés d'une manière ou d'une autre par les nazis. Les premiers à utiliser l'avion comme outil de campagne électorale, c'est les nazis. Pendant les campagnes électorales du début des années 30, Hitler parcourt l'ensemble du territoire allemand, ce qui permet de faire plusieurs villes dans la même journée. Il utilise fortement les affiches, les meetings politiques, etc. etc. D'une certaine façon, on peut dire que l'Allemagne nazie, c'est vraiment des champions de la propagande. Pas autant que les communistes. L'Union soviétique a quelque chose de très particulier dans son utilisation de la propagande, mais les nazis ont cette vocation moderne, modernisante ou de technologie liée à la propagande.
Ensuite, dans cette réponse-là, il clarifie énormément comment l'Allemagne utilisait la propagande au sein de son propre pays, mais j'ai voulu en savoir un peu plus sur comment la propagande se manifestait au sein des pays qui étaient soit soumis ou conquis par l'Allemagne nazie. Voici sa réponse.
Tout au long de la guerre, oui. Même avant, dans un certain sens. Juste, on regarde quand Hitler prend le pouvoir. Les films de Leni Riefenstahl, comme Le Triomphe de la Volonté, ont des vocations. Comme c'est un film, on peut l'exporter. Donc, il est vu aux États-Unis, il est vu en France, en Grande-Bretagne. En France, ça a un choc terrible pour les Français qui sont impressionnés par ce type de film-là, qui sont des chefs-d'œuvre de propagande à ce moment-là. Pendant la guerre, évidemment, les nazis utilisent énormément de propagande pour essayer d'influencer les pays qui sont occupés par l'Allemagne nazie ou les pays qu'on dit alliés, comme l'Italie ou la Hongrie ou la Roumanie pendant une certaine partie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un exemple peut-être de campagne de propagande, la plus célèbre ou celle qui a, entre guillemets, le mieux fonctionné pour les nazis dans, pendant leur occupation de l'Europe, c'est la croisade contre le bolchevisme. Quand on commence la campagne contre les Soviétiques en juin 1941, c'est les Allemands qui attaquent. Et de manière assez intéressante, ils utilisent un vocabulaire qui n'aurait pas été rejeté par des gens comme Bush dans les dernières années, c'est-à-dire une attaque préventive contre l'Union soviétique avant qu'ils nous attaquent pour se débarrasser de la domination des bolcheviks, des judéo-bolcheviks. Et ça va avoir un écho assez important chez plusieurs Européens qui vont s'engager du côté des Allemands dans des divisions SS pour participer à la guerre contre les bolcheviks. Donc, cette espèce de croisade contre le bolchevisme qui est faite par le ministre de la propagande allemand qui s'appelle Joseph Goebbels va vraiment fonctionner et atteindre un certain auditoire. C'est pas majoritaire, encore une fois, la propagande ne transforme jamais complètement les sociétés, mais ça a un impact important.
Afin de clore un peu la question de la propagande puis de son utilisation au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je vais demander si cette propagande-là ou cette idéologie de désinformation était utilisée dans des pays qui lui étaient hostiles, notamment pour les Alliés ou plus tard l'URSS ou des régimes comme l'Italie ou des régimes indépendants. Puis j'ai aussi demandé s'il y avait d'autres acteurs qui manifestaient cette volonté-là d'utiliser la propagande durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors voici la réponse qu'il m'a donnée.
Ah oui, à fond, tout le monde. En fait, la propagande était un des enjeux de guerre qui était assez important. Chaque pays a développé de près ou de loin un ministère de la propagande. Les Allemands appelaient leur ministère « ministère de la propagande et de l'éducation du peuple », qui est un mauvais mot d'ailleurs en traduction française « éducation ». Les Allemands, le nom en allemand, c'est « Aufklärung », qui se réfère aux Lumières, l'illumination du peuple, l'idée d'éclairer les gens dans la bonne direction. Les Français ont développé ce qu'on appelle un commissariat général à l'information avant la défaite de mai juin 1940. Après, il va y avoir un ministère de la propagande ou un commissariat général à la propagande du côté de Vichy. Les Britanniques vont développer le super puissant Ministry of Information. Et les Japonais ont fait énormément de propagande aussi. Eux aussi, éducation et propagande, pas beaucoup de différence. Les Soviétiques, on n'en parle même pas. Les États-Unis ont développé le Office of War Information, qui va fonctionner de juin 1942 à septembre 1945. Donc, tous les pays, de près ou de loin, entrent dans cette logique de propagande-là, vont le pousser. On va publier des tracts, on va lancer des tracts sur les populations ennemies, on va utiliser la radio, le cinéma, tous les moyens de propagande modernes sont employés par tous les belligérants pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ce qui a conclu mon entrevue avec M. Guillaume Marceau. Ça a été une entrevue extrêmement enrichissante au vu de son doctorat et puis du deuxième qui est en train de commencer et donc vraiment au cœur du sujet et des débats actuels. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre la question. Maintenant, pour ce qui est des entrevues, je pense qu'on a pas mal fait le tour, on a rencontré nos experts, mais il est toujours important de se documenter un petit peu plus afin de vraiment faire le tour de nos sujets. Puis je pense qu'il serait intéressant de présenter à nos auditeurs d'autres auteurs ou d'autres idéologies qu'on a réussi à trouver. Pour ta part, Blanche, tu as trouvé un livre qui t'a particulièrement motivé à continuer ta recherche?
Oui, j'ai lu un livre par Alfred Grosset. Le livre se nomme « Hitler, la presse et la naissance d'une dictature ». Monsieur Grosset est né en 1925 et est toujours en vie. Il est politicologue, sociologue, historien et il est franco-allemand. Dans son livre, il étudie l'histoire politique de l'Allemagne dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, donc durant le règne d'Adolf Hitler. Le but de l'auteur avec son livre était d'exposer les réalités avec le succès d'Adolf Hitler grâce à des articles de presse. Donc, l'auteur met certaines phrases d'introduction, puis présente un article ou deux, et ensuite les résume, il explique ce que ces articles voulaient vraiment dire. Alors, le livre décrit chronologiquement des événements importants sur la montée du nazisme avec Hitler entre 1932 et 1933, avec des articles de presse et en commentant ceux-ci. Donc, ce qu'il voulait vraiment montrer au public avec son livre, c'est comment la montée du nazisme n'était pas un secret. Plusieurs n'ont pas nécessairement vu venir toute cette grande montée et les conséquences qu'elles ont pu avoir. Tellement les gens n'ont pas su être bien perspicaces. Il a voulu montrer comment le nazisme n'était pas assurément un secret parce que plusieurs n'ont pas nécessairement vu venir ce que Hitler a vu avec toutes les conséquences que le nazisme et sa montée ont pu avoir. Donc, il a vraiment montrer des articles qui présentaient l'essentiel du nazisme et sa montée, et aussi des articles qui n'étaient pas nécessairement vrais, qui présentaient des informations fausses, qui étaient mal informés, des articles qui pouvaient porter en confusion, et ils corrigeaient ceux-ci. Donc c'était vraiment intéressant de voir tout ce qu'il a pu faire et toute la recherche qu'il a dû faire afin de vraiment monter ce livre vraiment intéressant et bien présenté. Donc, selon Alfred Grosset, les gens n'ont pas nécessairement su être perspicaces, ils ont pas bien analysé les articles de presse comme ils auraient dû être faits.
Donc, ton auteur Blanche exprime que vraiment, c'était un mouvement qui était prévisible et qu'on aurait pu voir où ça s'en allait. Juste qu'on a manqué de clairvoyance, on l'a vraiment pas vu. Est-ce que ton auteur, il cible un type particulier d'événement ou quel genre d'événement est-ce qu'il cible pour exprimer l'histoire de la montée du nazisme?
C'est sûr qu'il a ciblé les événements qui sont les plus importants, mais dans l'ordre, comment il a monté son livre, il a premièrement parlé de la situation avant les élections, comment tout se passait. Il a parlé en Prusse, les élections, il a parlé en Allemagne, bien sûr. Ensuite de ça, il a parlé des élections en tant que telles, ensuite de l'entrée au pouvoir d'Hitler, et finalement de l'installation de l'État totalitaire. Donc, le type d'article, il pouvait être sur l'incendie du Reichstag, qui est au cœur du nazisme, puisque l'incendie du Reichstag, plusieurs ne savaient pas que c'était les nazis qui l'avaient fait, mais il était quand même évident que ce l'était, puisque le Reichstag était le Parlement. Donc le Parlement signifie une démocratie, et les nazis n'étaient pas en accord avec la démocratie, donc ils auraient ce que la majorité pense, ce seraient les nazis qui auraient fait cet incendie. Mais les articles le présentaient un peu, mais ils n'étaient pas vraiment très clairs. Mais avec un peu de recherche, Alfred Grosset présente que, bien sûr, c'était évident que c'était les nazis. Un autre exemple qu'il a présenté, c'est l'entrée de la dictature. Donc, il a présenté des articles qui montrent peu à peu comment Hitler a réussi à manipuler les gens et à monter jusque dans une dictature. Et c'était vraiment intéressant de voir le tout. Il a conclu son livre en disant comment voyait tout le monde. C'était vraiment évident, mais il faut juste faire un peu de recherche pour le voir.
Est-ce que tu as aimé le livre? Est-ce que tu le recommanderais à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment?
Le livre était vraiment intéressant. Par contre, parfois, il pouvait être un peu compliqué puisque les articles étaient mis vraiment un après l'autre et ça peut être un peu mélangeant parce qu'on voit le point de vue d'un certain journal, ensuite de ça, un point de vue d'un autre journal. Donc oui, je le recommanderais pour quelqu'un qui connaît beaucoup le sujet. Puisque si on part de zéro, on nomme certains termes du nazisme qui sont pas nécessairement vraiment connus, mais en tout, c'est sûr, on en apprend beaucoup avec son roman.
Donc, ça prend vraiment une bonne recherche préliminaire. Bien, merci beaucoup, Blanche, pour notre apport à notre club de lecture. Pour ta part, William, tu as choisi un livre, qui est complètement différent en termes de genre. Peut-être que tu voudrais nous le présenter un petit peu.
Oui, merci. Moi, mon livre que j'ai décidé de lire, il se nomme Les combattants de Londres 1939-1945, des résistants européens contre le nazisme. Ce livre-là, il a été écrit par Ambre Rouvière et Bernard Georges. Premièrement, ce livre n'est pas seulement un livre, mais aussi une sorte de documentaire. Dans le fond, ils ont commencé par vouloir faire un documentaire et ils ont décidé de faire un livre habillé avec le documentaire. Donc, ça, avec l'appui de la Maison du Bain, ils ont réussi à publier en 2011 ce livre nommé « Les combattants de Londres ». Cet ouvrage démontre un peu, avec des images, des témoignages, la résistance durant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Pour réussir à ça, dans le fond, les auteurs sont partis à la recherche en 2008 de témoignages révélateurs des derniers combattants contre le nazisme qui étaient encore vivants aujourd'hui. Après 3 ans, ils ont réussi à accueillir environ un peu plus de 80 témoignages provenant des 4 coins de l'Europe pour enfin publier ce livre, comme je viens de dire, en 2011.
Oui, donc il y a vraiment une grosse recherche faite par les auteurs, puis une grosse démarche d'écriture, puis de réalisation. Justement, en parlant de ces gens-là, est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être un peu les auteurs, comment est-ce qu'ils ont agi, puis comment ils étaient?
Oui, premièrement, il y a Anne Bouvière, c'est vraiment elle qui a le plus d'expérience dans l'écriture. Elle est âgée dans la quarantaine. Elle est responsable éditoriale littérature du premier groupe de presse en France, soit Prisma Média. Elle a fait ses études à l'Université de Paris, Sorbonne. Elle a énormément d'expérience, comme je viens de dire, parce qu'elle a travaillé pour plusieurs éditions très connues en France, comme Albin Mitchell, Smoji, Édition d'Or, Groupe M6. Donc, vous les connaissez peut-être pas vraiment, c'est vraiment des maisons d'édition très importantes en France. Par contre, Les Combattants de l'Ombre fut sa seule publication officielle. De son côté, Bernard Georges est né le 9 septembre 1960. En premier lieu, Georges est un réalisateur de documentaires. Il a fait ses premiers pas dans le cinéma alors qu'il faisait ses premiers services à militaire, pour ensuite réaliser de nombreux documentaires historiques. Mais Les Combattants de l'Ombre, qui est le sujet du livre, est vraiment sa réalisation la plus récente.
Parfait, merci beaucoup. En parlant de ce livre-là, qui semble particulièrement intéressant, du moins de sa structure, est-ce que tu pourrais nous résumer peut-être un petit peu le livre?
Oui, premièrement, le livre est conçu un peu comme un recueil de paroles, qui est illustré avec des images et des dialogues de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, soit en 1939 et 1945, il y a de nombreux mouvements de résistants contre le nazisme qui ont été créés. Il y a plusieurs hommes et femmes qui ont prêté leur liberté. C'est donc que les auteurs analysent un peu tous ces témoignages-là, qu'est-ce qui est arrivé. Puis cet ouvrage peut sembler aussi comme une forme de reconnaissance envers ces personnages qui ont été vraiment courageux, qui ont réussi vraiment leur vie pour combattre le nazisme.
J'aime beaucoup la structure. Est-ce que tu as peut-être des recommandations par rapport au livre?
Oui, mais moi personnellement, j'ai quand même bien aimé le livre. Plus que premièrement, il est très cohérent. Les auteurs suivent un ordre très logique, soit l'ordre dans lequel les événements historiques se sont passés, un peu comme dans le livre à Blanche. Mais aussi, le contexte historique est mentionné tout au long de l'ouvrage pour faciliter un peu la compréhension du lecteur. Fait que tu peux lire, mais t'es pas trop perdu à cause qu'il mentionne le contexte politique. On peut également pas douter de la rigueur des arguments, puisque c'est vraiment des témoignages de personnes qui ont vécu la résistance, qu'ils ont vécu de leur propre peau. C'est pas juste j'ai entendu parler de ça, mais c'est eux qui l'ont vraiment vécu. Puis les témoignages sont très variés parce qu'ils proviennent de différents mouvements et de résistance, donc il y a un peu plusieurs idées différentes. Ensuite, pour les illustrations du livre, il y en a beaucoup, mais sont vraiment bien placées stratégiquement et logiquement à travers les témoignages. Ça appuie un peu l'information qui est dit, ça rajoute aussi un peu d'information. Ça l'aide aussi le lecteur à comprendre les événements, puis un peu à s'imaginer. Ensuite, ces images proviennent toutes d'archives et de fonds privés, donc sont très intéressantes, puis même ils peuvent paraître parfois très choquantes. Donc oui, je recommanderais ce livre aux personnes qui s'intéressent au sujet, mais faut pas trop avoir mal au cœur.
Ok, donc pour cœur sensible, s'abstenir. Pour ma part, j'ai trouvé un auteur qui est radicalement différent de celui par mes collègues. Il s'appelle Henry Victor Dix. C'est un psychiatre anglais de formation. Donc, il n'y a pas vraiment de formation en écriture ou en formation littéraire, quelle que soit la sorte. Lui, s'est intéressé aux hommes et aux institutions qui ont soutenu ce régime de terreur, puis qui ont créé ce monstre naziste-là, parce que souvent dans la communauté des psychologues ou des psychiatres, on se questionne, puis on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut pousser des hommes à agir dans les limites de leur humanité. Là, c'est vraiment des comportements qu'ils adoptaient qui étaient bestiaux, pratiquement. Donc, il va s'intéresser à ça, et puis à l'étrange et dérangeante odeur, selon lui, de fanatisme qui émane du mouvement nazisme. Dans un premier temps, il va parler du modèle SS, un modèle qui, malgré qu'on le présente souvent comme une entité assez unie puis organisée, lui au contraire, M. Dix, il va la présenter comme extrêmement divisée, puis instable et articulée, désarticulée même, qu'il dit. D'abord, en basant sa réflexion sur le fait que c'est impossible de créer un modèle sur des valeurs de violence absolue puis de barbarisme, ce qui est selon lui les valeurs qui étaient prônées par le modèle SS. Le corps de l'étalement s'est imposé aux forces armées qui étaient déjà au sein de la population allemande de manière extrêmement peu naturelle, ce qui a fait qu'elle a été d'abord rejetée par la population puis par les membres, mais comme l'auteur l'explique, elle est arrivée avec tellement de force et de vigueur que l'Allemagne n'a pas eu le choix d'accepter ce nouveau modèle SS. Ça a été difficile ensuite parce que au sein du SS, c'est une armée qui est divisée en plusieurs sections. Il y a l'armée régulière qui s'incorpore à ça, puis cette armée-là critique énormément la liberté d'action que les SS avaient au sein du pays, puis aussi à l'extérieur. Donc on enviait un peu le prestige puis les honneurs qui étaient accordés à cette armée-là, et puis on critiquait le fait qu'il y avait autant peu de retours sur leur action, puis qu'on les jugeait pas pour des actions immorales qu'ils pouvaient poser même au sein du pays. D'abord, il explique que ce modèle-là est impossible parce que la SS est humainement impossible. D'abord, les critères pour être admis au sein de l'armée noire, ils sont d'une simplicité étudiée. Outre, bien sûr, les standards physiques, puis toute formation en ce genre, les postulants devaient se soumettre intrinsèquement à la volonté du Führer, ce qui veut dire de laisser leur libre arbitre à la porte de l'armée noire pour adhérer aux valeurs, puis à toutes les idéaux qui étaient promulguées par le Führer. Le modèle idéal au sein de l'armée SS, c'est le soldat paysan soumis à la volonté de ses seigneurs. C'est vraiment ce qu'on recherche, puis c'est ce modèle-là qu'on va appliquer. Puis ça, dans le fond, ce que ça crée, c'est que ça déshumanise le soldat SS. Fait qu'il n'y a plus de repères en termes de valeurs, il n'y a plus aucune coercion entre les structures sociales qu'il connaît, puis les acquis qu'il a déjà acquis plus jeune. Il y a aussi un important culte à la virilité qui est omniprésent. C'est un culte qui fait l'appel à la violence, puis au dévouement à la culture physique. Donc, les soldats apprennent à réagir d'abord par instinct puis par la force, sans vraiment réfléchir. On laisse la réflexion aux dirigeants, ce qui ramène encore une fois le modèle un peu du paysan soldat qui est pas trop éduqué, pas trop au courant de la situation, qui se contente de prêter sa force à ses seigneurs. Donc, à cause de cette situation-là, ces humains-là deviennent extrêmement dépourvus d'émotions, dépourvus de système de valeurs, ce qui a créé des situations où le meurtre, le viol, puis tout autre comportement complètement bestial, c'était mis de l'avant, puis c'était vraiment accepté au sein de cette armée-là. C'est vraiment leur pain quotidien. Puis tout ce contexte-là d'endoctrinement, puis de soumission, ça les met un peu dans un cocon qui les rend vraiment amorphes aux sentiments de l'extérieur, puis aux critiques qu'on pourrait leur faire. Puis, et surtout, par rapport aux remords qu'ils pourraient ressentir par rapport à leur action, qui sont honnêtement des plus ignobles. L'auteur s'intéresse aussi particulièrement aux officiers, puisqu'il dit que c'est eux qui vont un peu porter la volonté du Führer. Il va définir qu'il est important de se questionner si ces officiers-là étaient au service d'Hitler par fanatisme ou vraiment par quête personnelle. Il va interroger, puis son livre fonctionne beaucoup par ça, par interrogatoire. Il va rencontrer des officiers SS qui ont été gardés en captivité en Europe, souvent en Angleterre. L'un d'entre eux qui va donner un nom de code S2. Cette personne-là a appris à blâmer les Polonais juifs après la mort de son père, puis après la fermeture de l'entreprise familiale. Selon lui, S2 va intégrer des sentiments promulgués par la doctrine SS en se basant sur sur son propre vécu puis sur des expériences qu'il a ressenties puis qui l'ont profondément marqué. De cette façon-là, S2 intègre les valeurs nazismes puis en fait une quête personnelle, ce qui crée la situation où il devient vraiment un fanatique. Donc, en tant qu'officier, il va vraiment essayer de promulguer le nazisme, puis il va vraiment croire en ces idéaux-là, puis c'est là qu'on va vraiment caractériser ces officiers-là de fanatiques. Il va ensuite rencontrer un deuxième homme qui va appeler B5. B5 est un peu à l'opposé de S2, en ce sens où c'est un homme qui a grandi dans une classe sociale assez élevée, puis il a toujours cherché l'approbation de son père, puis il a toujours eu de la misère à se faire un réseau d'amis ou créer des contacts au sein de sa population. Il est beaucoup moins violent que S2, puis son tempérament est beaucoup plus passif qu'agressif, alors que, par exemple, S2 s'impliquait dans des bagarres de rue, criait durant les consuls locaux et tout. Lui était plus du genre à regarder puis à laisser passer, mais quand on l'a recruté au sein de la SS, il a vraiment senti qu'il pouvait enfin appartenir à un groupe, puis qu'il pouvait s'approprier des valeurs qui n'étaient pas du tout les siennes, des valeurs en lesquelles il croyait pas, mais qui s'est approprié pour se joindre à ce groupe-là, puis enfin se sentir accepté par son père, qui lui voyait le nazisme comme étant le grand sauveur de l'Allemagne. Donc, lui, au contraire de l'autre, ça a été plus une quête personnelle, rechercher un sentiment d'approbation au sein des autres que vraiment comparé à S2 qui, lui, avait une quête, un fanatisme vraiment réel pour le nazisme. Un autre élément qui est important de noter, c'est que B5 montre un grand trouble psycho-affectif du fait qu'il y a un énorme problème d'estime de soi. Puis, vu le culte de virilité qui est prôné dans la SS, puis ce sentiment-là d'appartenance, ce problème d'estime va être atténué par cet immense sentiment d'accomplissement qu'il va ressentir au sein de cette armée-là. C'est aussi, dans les deux cas, quelque chose qui est important de noter, c'est que peu importe le modèle puis les raisons intrinsèques qui les motivaient, on remarque que ça atténuait énormément les remords qu'ils ressentaient, puis ça leur permettait de suivre des ordres inhumains sans vraiment questionner leur propre moralité ou remettre en question leur propre échelle de valeur. Alors, c'est ce qui conclut pas mal notre podcast. J'aimerais toutefois qu'on note que le nazisme est toujours présent aujourd'hui, puis c'est une question qu'on se pose souvent. Dans quelle mesure le nazisme existe aujourd'hui? Blanche, ton expert En a parlé un peu avec toi, peut-être que tu voudrais nous transmettre sa réponse.
Oui, je lui ai demandé, selon lui, quelle marque le nazi et son mouvement ont laissé dans le monde, qui est encore présent aujourd'hui, et s'il y a encore des partisans de cette idéologie. Alors voilà sa réponse.
C'est sûr que après 1945, le nazisme a été défait de façon non équivoque sur le champ de bataille. C'était assez gênant de se réclamer du nazisme. Ce qui fait que dans la plupart des pays qui ont été directement impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, si on trouve des mouvements néo-nazis, généralement, ils sont marginaux. C'est des nostalgiques. Puis c'est pas quelque chose qui, politiquement, a beaucoup d'influence. En revanche, il y a un certain écho des idées nazies qu'on va trouver, par exemple, dans les pays musulmans, encore aujourd'hui, essentiellement parce qu'on tout le conflit entre Israël et le monde arabe, disons, est retraduit, si on veut, ou peut être retraduit dans un langage qui était celui des nazis. Je m'explique ici. Israël a été créé après la Deuxième Guerre mondiale en réaction à l'extermination des Juifs avec l'aide des puissances occidentales contre, si on veut, les populations arabes de la région. Donc, il y a eu une tendance dans un certain nombre de pays arabes à accéder à l'idée que, ou accepter l'idée que le génocide était quelque chose qui avait été exagéré, voire imaginé. Donc, toute la négation du génocide, qui est très, très marginale en Occident, elle a plus de place là, puisqu'on peut la réinsérer dans une histoire un peu plus longue, là, que celle de la création d'Israël. Et là, ça peut être présenté, là, le génocide, comme un, disons, le prétexte qui est pour la création d'Israël. Donc, il y a un certain écho encore. Ça explique que, par exemple, Mein Kampf était massivement diffusé dans les pays musulmans. Maintenant, il va circuler plus librement, même en Allemagne, semble-t-il.
Alors, merci infiniment, Blanche, et aussi à ton expert. C'est ce qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Et puis, ça nous jette vraiment un regard neuf sur le nazisme. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup éclairé. Puis, ça me permet de comprendre des situations sociales qu'on remarque même encore aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Blanche Caron, d'avoir été avec moi et à William. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de travailler à nouveau ensemble.
Ça fait plaisir. Merci.
Merci beaucoup. Die Geister.